Delphine Equet, bonsoir.
Bonsoir.
Je vais juste faire un petit pitch de votre spectacle. Donc, qui dit que chaque été à Marseille, des jeunes s'élancent du haut des rochers pour se sentir pleinement vivants. Depuis les falaises, ils défient le vide pour quelques secondes d'adrénaline. Et un jour, il y a un accident. L'un d'entre eux meurt. Et comment annoncer le drame à sa mère? Comment continuer à vivre? Et ma première question, ça va être Requiem pour les vivants. Le titre n'est pas mensonger. La pièce est bien découpée comme un requiem, comme une messe. Et sur le plateau, cela danse, cela chante, cela parle avec de la vidéo. Un décor qui déploie plusieurs espaces dans un même lieu. Est-ce qu'au fond, vous aviez envie de réaliser une forme qui tende vers l'opéra?
Oui, c'était une évidence dès le début de par le titre qui est arrivé très tôt voilà, dans mon intimité d'autrice et de metteuse en scène. D'abord parce que je suis depuis toujours fascinée par l'écriture des requiems qui sont des chants sacrés et qui, tout à fait étonnamment, ont une architecture, une dramaturgie similaire chez tous les compositeurs et compositrices qui ont réalisé des requiems. Et en fait, en m'y intéressant, en les regardant attentivement, en les écoutant, en les réécoutant, je m'apercevais que c'était comme le signe d'une dramaturgie qui pouvait être théâtrale. Donc tant mieux si c'est lisible en allant voir le spectacle, parce que c'était vraiment un vœu dès le départ. Et donc assez tôt, j'ai senti que ça pouvait être une forme dite opératique, mais pas avec les mêmes effets, mais puisque oui. L'idée c'était quand même de rester très au présent avec des situations qui soient vraiment purement théâtrales et qui donnent naissance à la musique.
Donc merci pour rebondir justement sur cet aspect du sacré qui a une place très importante dans votre pièce, et vous en parlez aussi dans d'autres interviews. En fait, la référence biblique du prophète Jonas dans le ventre de la baleine et le concept même du coup de requiem, qui est une prière pour le repos de l'âme d'un défunt, nous apporte constamment cette dimension du sacré, du spirituel. Et pourtant, le religieux ne prend jamais le dessus dans la pièce. J'ai l'impression que cette pièce ne sacralise pas la mort, bien au contraire. Mais je me suis quand même demandé, qu'est-ce qui est sacré pour vous et à travers cette pièce? Est-ce que c'est la vie qui est sacrée? Est-ce que c'est le requiem? Est-ce que c'est la résilience, le deuil?
C'est une question qui resterait malheureusement sans réponse, parce que je crois que ça va dépendre vraiment de chacun et chacune en regardant le spectacle, c'est-à-dire comment ça vient résonner chez chacun d'entre nous. En tout cas, chez moi, qui ne suis pas croyante et qui espérait beaucoup plus, on va dire, de sacré dans ma propre culture, c'est un manque en fait réel de ne pas avoir de verticalité, de quelque chose qui nous dépasse, notamment pour donner une réponse aux morts, à la mort, la mienne, future, celle de mes proches, de mes amis, quelque chose de tellement indicible et d'épouvantablement, irrésolu. J'avais très envie d'essayer de donner une réponse théâtrale qui ne vienne pas avoir un rapport directement religieux, puisque en fait moi-même, c'est pas une direction vers laquelle j'ai envie d'aller. Donc j'essayais vraiment de chercher des moyens qui sont des moyens ancestraux, hein, mais des moyens voilà dansés effectivement, et des moyens de physicalité, de chant, de musicalité, et aussi d'un rapport à la poésie, parce que en fait la poésie elle aussi est dramaturgiquement très peut être très sacrée déjà et répond à des exigences de forme pour pouvoir provoquer des émotions, et la musique a ce pouvoir là aussi, et je trouve ça magnifique que la religion se soit emparée justement de ces messes, de ces requiems pour pouvoir en quelque sorte imaginer que les défunts auraient droit au repos. Et donc j'ai un peu inversé les choses en le proposant vivant cette fois-ci. Et donc un peu avec amusement, se dire que ça pouvait s'adresser à des gens qui n'étaient pas forcément croyants.
Et c'est bien que vous parliez de la poésie, parce que justement, il y a chez vous un travail sur la langue qui est assez saisissant, avec des phrases qui continuent à résonner longtemps après les saluts, comme « charrier mon âge et mes ténèbres »,« je ne veux pas y entrer dans cette image », ou encore « la pénombre assiégée de fantômes ». Et cette langue, elle est intensément poétique, alors même que ce que vous racontez demeure très commun, très partagé. Comment vous procédez pour parvenir à cette langue ciselée, alors même que l'on apprend que vous travaillez à partir d'improvisation?
Ça, c'est vraiment quelque chose que je défends dans mon travail et dont je souhaite vraiment parler avec beaucoup de sincérité, parce que l'écriture de plateau est une manière d'écrire assez fréquente. Il y a pas grand-chose d'original. On entend beaucoup parler d'écriture de plateau dans le théâtre aujourd'hui.
Mais elles sont rarement poétiques. C'est ça qui est fou dans ce que vous arrivez à obtenir, quoi.
Ouais, après c'est un gros travail de dramaturgie, parce que là en l'occurrence vous citez des phrases qui ont été prononcées par Léo Antonin Lutinier qui était là aussi au laboratoire d'écriture au plateau. On a travaillé pendant une dizaine de jours justement sur des situations que j'avais données, et je me souviens de cette improvisation donc qui est devenue ensuite le prologue, où il avait utilisé ces mots-là. Et c'est des mises en situation qui le permettent, c'est-à-dire où on a évidemment parlé, nourri nos discussions autour de la mort, autour d'ouvrages qui nous ont interpellés, qui nous ont passionnés, pour lesquels moi j'ai eu besoin aussi de partager des choses avec les interprètes très en amont, dès les improvisations. Et la poésie, elle vient aussi de... C'est un peu une alchimie entre les interprètes qu'on choisit. En l'occurrence, je savais que Léo Antonin, c'était quelqu'un qui allait beaucoup vers ça, qui cherche dans les mots à percuter les consciences, quoi. Et c'est ce que fait la poésie. Et moi, je viens beaucoup de cette école-là, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, très tôt au collège, j'avais participé à un concours national de poésie. Je cherchais aussi comment, dans les dissertations, comment, en fait, dans le réel, on pouvait réinsuffler un mode de langage avec lequel on n'aurait aucun problème, qui sera un langage complètement, possiblement poétique. Pourquoi, en fait, quand on dialogue, on ne pourrait pas avoir ce même rapport-là à un langage qui soit pas forcément châtié, mais à un langage... Voilà, un langage qui va tout de suite droit à l'émotion, droit au sensible, je dirais plutôt. Ouais.
Alors, pour rebondir sur le sujet de la mort, c'est assez frappant. Sans l'avoir vraiment prémédité, cette émission accueille en ce moment plusieurs pièces qui parlent de la mort. Comme nous l'avions déjà remarqué en février à propos d'une autre tendance dans l'émission d'avant, celle du bifrontal, avez-vous le sentiment que le théâtre revient aujourd'hui vers la mort parce qu'il sent qu'il y a là un point de réel que beaucoup d'autres discours n'arrivent plus à saisir ?
Pardon,
c'est une question très, très importante, très grave aussi, un sujet assez grave. Grave dans le sens, pas seulement parce qu'il touche à la mort, mais aussi parce qu'en fait, il y a une défaillance. C'est-à-dire que, clairement, moi, je n'ai pas choisi de parler de la mort parce que d'autres allaient s'en emparer. Enfin, c'est vraiment un hasard total, mais ça dit quelque chose. C'est-à-dire que, évidemment, que si... En même temps, autant de gens peut-être de la même génération s'emparent de cette question-là, c'est bien qu'il y a une défaillance, qu'une culture peine à s'emparer du sujet depuis fort longtemps, ou l'évite aussi. C'est un principe beaucoup d'évitement quand même, le sujet de la mort. On ne la représente pas, on la cache, on en parle tardivement à nos enfants, on ne voit pas les corps, on n'est pas du tout dans une culture ou une société qui permet ça, même les représentations picturales. Enfin, on est quand même dans quelque chose qui vient masquer, qui vient de suite avoir peur de ça, en fait, clairement.
Parfois par des rides, j'ai peur, j'avoue. j'aime pas le mot doux.
Notre premier morceau de la soirée, Belle Sueur, de l'artiste Malik Djoudi. Nous sommes toujours en compagnie de Delphine Eke pour nous parler de son spectacle Requiem pour les vivants au Théâtre de la Tempête du 12 mars au 12 avril.
Et dans le même mouvement, par rapport à cette poésie, je me demandais si, au-delà de ce travail poétique, il y avait aussi chez vous une couche plus psychologique. Parce qu'on croit percevoir, sans que ce soit jamais plaqué, hein, c'est toujours très fin, il y a quelque chose comme les grandes étapes du deuil. Est-ce que, genre la colère, le déni, ces choses-là, est-ce que ça a nourri votre travail ou est-ce c'est une reconstruction de spectateurs?
Non, c'est vraiment complètement une chose que j'avais envie de partager. Je suis, moi, je n'ai pas de complexe avec les émotions sur un plateau, à les délivrer, à essayer de s'en emparer au risque de parfois le montrer trop. Je ne sais pas. J'ai l'impression que les gens se racontent aussi leur propre histoire en regardant un spectacle. Ça ne touche pas les gens au même endroit. J'étais même assez surprise en parlant avec des spectateurs il y a quelques jours qui me disaient que finalement, ce qui les avait beaucoup touchés, c'était la relation mère-enfant et la question du regret, par exemple. Mais ça, c'est des choses qui, moi, me touchent personnellement. La scène de l'annonce, par exemple, à la mère, on l'appelle la scène de l'annonce, mais moi, je l'appelais beaucoup la scène du déni, puisque c'était une scène où ce qu'on cherche à montrer en mise en scène, c'est le fait que c'est impossible d'entendre cette annonce. Et donc, c'est le déni, c'est le magnifique déni de cette femme qui parvient, par la force de l'imagination, à chaque fois à les mettre en échec, les uns après les autres, et jusqu'à se retrouver face au corps, évidemment, qui dit tout. Et ça, c'était important pour moi de chercher comment les émotions pouvaient passer par des outils qui ne soient pas forcément des outils psychologisants. Oui. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais des outils qui soient des moyens qui viennent nous percuter d'une manière intense, quoi, comme des sensations physiques, en fait, comme des frissons, comme avoir froid, faim.
Oui, ben oui, c'est tout à fait ça. Le travail chorégraphique, très physique, très heurté, peut faire penser par moments à Wim van den Kebus, à Peeping Tom aussi, bon, alors bien sûr à la Horde. Et pourquoi vous avez choisi pour ce spectacle une danse de l'impact, du choc, presque à l'épreuve? Est-ce que c'était une façon de dire combien ces êtres ont besoin de se sentir vivants? Est-ce que vous avez choisi cette physicalité de l'impact pour faire sentir que face à la mort, il ne leur reste plus que l'épreuve brutale du vivant? Ou faut-il y entendre juste une résonance avec Marseille, dont la Horde dirige le ballet?
Alors non, c'est pas la dernière phrase qui compte. C'est effectivement, je pense, une danse qui... je vais aller plus loin, une physicalité, un mouvement qui doit aller dans le sens de la situation théâtrale et faire honneur à un récit qui va quand même entrer dans des ténèbres, clairement. Donc il y a l'imaginaire qu'on peut avoir avec un corps qui n'est plus un corps reconnaissable, hein, qui est donc un accident qui comporte deux grandes violences qui sont la mort jeune d'une part et la mort qui abîme la représentation qu'on a de la personne, donc le corps est en morceaux. Donc on va aller parler du corps d'une certaine façon, on va chercher à ne pas représenter ce qui est irreprésentable, mais on va chercher à raconter comment en fait il existe dans la mémoire des êtres qui restent. Il y a ça d'un côté, et il y a donc aussi ma rencontre avec les deux chorégraphes qui sont Vito Giotta et Angel Martinez Hernandez, avec qui j'ai beaucoup beaucoup discuté en amont et avec qui on a partagé ça ensemble. Je leur racontais un peu qu'est-ce que j'aimais aussi dans le rapport entre le texte et le corps. Il se trouve que Peeping Tom faisait partie des références que j'avais, et j'avais montré des vidéos. Il y avait aussi Pina Bausch, évidemment, qui part du geste aussi, qui repart du geste, en tout cas pour recomprendre la danse. Et donc, ça revient souvent, même là, au fur et à mesure des représentations, je leur redis, attention, les visages ne doivent pas re-raconter ce que les corps racontent déjà dans la danse, parce que c'est beaucoup plus puissant en fait de les voir, par exemple, raconter la joie avec une chorégraphie qui va passer d'abord par des portées de la hauteur, un buste très très haut, et puis tout d'un coup le dernier porté en fait tombe en dôme et donne l'image de l'un des leurs qui soutient le corps de Jonas qui vient juste de mourir. Donc effectivement il y a eu comme ça dès l'écriture une volonté de ma part de partager beaucoup avec Angel et avec Vito dans, à chaque étape de l'écriture les images qui me venaient, et j'ai eu beaucoup de chance qu'ils soient aussi talentueux pour les traduire chorégraphiquement.
Oui, et en plus, c'est assez juste véritablement de voir qu'en fait, il y a une dramaturgie de cette danse qui va avec la dramaturgie complètement de la pièce, en fait. Hein. C'est vraiment, c'était le sens de ma question. Lance celle-ci, Léna. Vas-y.
Est-ce que vous laissez sciemment planer le soupçon du suicide ?
Parce qu'on ne sait pas du tout. Moi, c'est le film que je me suis fait. Hein. Je me suis dit, ah, c'est pas possible. En fait, il y a... On ne sait pas s'il n'a pas voulu, s'il n'a pas choisi. Moi, je ne sais pas.
En fait, c'est arrivé à un moment donné dans l'écriture où vraiment j'étais vraiment plus du tout avec les interprètes. J'étais vraiment toute seule à cette étape-là. Et j'avais écouté beaucoup d'émissions sur le coming out, par exemple, sur le fait que l'homosexualité de Jonas soit l'une des difficultés portées par la relation avec la mère, enfin qu'il y avait un conflit entre eux, notamment par cette homosexualité, et que donc peut-être que la mère pouvait à un moment donné se demander, en tout cas elle est en droit de se demander si l'accident n'était pas un suicide. Mais c'est une piste dramaturgique que j'ai évacuée assez vite en me disant de toute façon ça restera dans les consciences, ouais. Mais ce n'était pas en tout cas un souhait d'aller dans cette direction. On a même failli parler d'enquête parce que quelqu'un aurait pu le pousser aussi, par exemple. Ça aurait pu être un homicide. Mais là, on allait vraiment basculer dans une dramaturgie qui allait nécessiter au moins une heure de plus, en fait, de plateau, je pense. Ouais.
Notre deuxième morceau de la soirée, Bergain, de l'artiste Rosalia. Nous sommes toujours en compagnie de Delphine Eke pour nous parler de son spectacle Requiem pour les vivants.
Sans que cela en soit le sujet principal, votre œuvre est liée à l'actualité par la radio écoutée par la mère, notamment au début, et ça revient un peu dans les dialogues. Est-ce que vous diriez qu'il s'agit d'une manière d'apporter du militantisme dans vos pièces, de faire passer un message d'une manière ou d'une autre Et est-ce que c'est important pour vous? En quoi c'est important pour vous? On voit aussi qu'il y a cette normalisation de l'homosexualité, juste parce que d'un coup, Jonas va dire à sa mère « mon copain » et puis on ne revient pas forcément dessus.
Ces deux questions en même temps. La question du podcast qu'écoute la mère, c'est venu d'abord d'une envie d'ancrer évidemment le récit dans une réalité dans laquelle on se reconnaît, donc on arrive à capter l'époque. C'était une époque où c'était le début du conflit. On parlait même encore de conflit, hein, pas de guerre israélo-palestinien. Donc c'était la question du cessez-le-feu, du premier cessez-le-feu. Et donc il revenait en boucle, il passait en boucle, que moi-même j'écoutais en boucle. Donc évidemment, je me sentais très concernée et je trouvais ça assez inévitable d'en parler dans la pièce. Parce que, par ailleurs, je souhaitais que la mère soit connectée à un conflit qui n'est pas le sien. C'est-à-dire qu'elle évite le conflit qu'elle a avec son enfant et qu'elle soit accaparée par le conflit des autres, pour lesquels elle passe beaucoup de temps à s'interroger, à réagir, à être très sensible, là où le conflit qu'elle a avec son enfant n'avance pas. Et même n'est pas lisible en tant que conflit réellement. Finalement, est-ce que ça leur va pas comme ça, la vie? J'avais envie de créer un parallèle comme ça, d'avoir à la fois l'accès, mais très très faiblement, parce qu'on l'entend à peine. D'ailleurs, il a été question qu'on le remette
au goût du jour.
Ouais, mais en fait, la pièce a été écrite à un moment donné, donc ça a modifié beaucoup de choses de changer l'actualité. Et puis, de toute façon, malheureusement, l'actualité pâtit. Mais j'ai failli choisir plutôt la guerre en Ukraine. Et puis, en parlant avec mon équipe, il me parlait de la guerre et pourquoi pas la guerre en Ukraine. Et je leur ai répondu ce qui est terrifiant, c'est d'avoir le choix entre eux. De quelle guerre parler dans un spectacle. Je me disais, mais en fait, je pense que le conflit israélo-palestinien et cette question du cessez-le-feu se connectait directement au fameux cessez-le-feu qu'on espère entre Jonas et sa mère et que la mort vient en quelque sorte résoudre, en tout cas taire, et faire parler post-mortem. Et l'autre question de l'homosexualité, alors je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait compris exactement la question.
Non, c'était plus pour relier ça à la question d'une manière d'intégrer du militantisme dans votre pièce.
Oui, alors effectivement, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi les endroits où c'est anguleux. C'est-à-dire que l'homosexualité, aujourd'hui, est très... la parole est très libérée, et pour autant, il existe encore toute une génération de pères et de mères qui négligent beaucoup ça. En écoutant les podcasts sur le coming out, il y avait un podcast passionnant là-dessus, hein, il y a eu même une série là-dessus, je me disais, en fait, clairement, il faudrait aller montrer ça, en fait, que peut-être que le nœud entre eux vient aussi du fait qu'ils ne se comprennent pas. C'est pas tant qu'elle n'accepte pas l'homosexualité de Jonas, je pense que c'est qu'elle ça ne l'intéresse pas. Au même titre que ça aurait été une femme dont il est amoureux, je pense que ça ne l'aurait pas intéressé non plus, mais voilà, ça vient vriller à un endroit. Je pense que Jonas attendait plus, justement, de sa mère et que ça ne vient pas. C'est plutôt que c'est le désintérêt qui est intéressant. Mais le militantisme associé à l'acte théâtral ou artistique m'intéresse énormément. Et je crois qu'on peut aussi passer par des biais poétiques pour sensibiliser sur des questions très, très cruciales, quoi, d'époque.
Les dialogues et le jeu, ils paraissent souvent légèrement décalés, comme désajustés. On pense bien sûr à un effet brechtien de distanciation, mais il y a aussi un flottement que produit la mort, à l'absurdité qu'elle ouvre, à la perte du sens. Puis il y a cette phrase, pourquoi vous avez toujours besoin de tout comprendre, même l'indéfinissable? Et dès lors, on se demande si le spectacle ne serait pas aussi en partie un spectacle un peu méta sur le théâtre lui-même. À force de voir ses corps s'élancer dans le vide, de voir ce sens se dérober, on finit par se demander si votre spectacle ne parle pas aussi du théâtre et de ces acteurs condamnés à recommencer chaque soir un saut dans l'inconnu. Est-ce que c'est une lecture abusive, en fait?
Et non, pas du tout, parce que c'est vraiment ce que je leur dis à chaque fois, même en note, aux interprètes. Je leur dis, en fait, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais les interprètes, vous êtes au même endroit que les personnages, c'est-à-dire que vous êtes d'abord dans un désœuvrement, parce que la mort vous met dans cet état-là, vous met à l'arrêt, vous met en état de sidération, et donc de reconsidérer l'espace, hein, de recontacter le réel, parce que je pense que quand on est confronté à une mort aussi épouvantable que celle d'un jeune homme de 20 ans dans ces conditions, on est tenu de reconsidérer le réel. Et donc, effectivement, il y a... Alors, méta, je ne sais pas, mais en tout cas, le théâtre, c'est vraiment un langage très particulier et déjà en soi, puisqu'en fait, on est en train de rejouer tous les soirs la même histoire. Enfin, on est très loin du cinéma où on a l'impression d'être proche dans l'intimité d'une réalité, d'une fiction, alors que le théâtre, de toute façon, nous montre que c'est vivant et que tous les jours, il faut recommencer, etc. Donc, en fait, oui, il y a une sorte de fantaisie, en tout cas, en travaillant à se dire, en fait, on est en train de faire quelque chose d'absurde et on est en train d'essayer, surtout, c'est une expérience. Mmh. Donc, en fait, c'est pas une représentation un peu normale, habituelle.
Oui,
avec,
c'est pas quotidien.
Non, il n'y a pas quelque chose de quotidien. Il y avait vraiment une volonté de ma part de proposer à toute cette équipe d'entrer dans une forme... j'ai pas forcément envie de dire irréel parce que ce serait proche de la science-fiction ou de quelque chose sur laquelle on n'a pas de prise, mais pour moi vraiment c'est quelque chose qui va au-delà, c'est-à-dire je pense que c'est la représentation de ce qu'on n'arrive pas à montrer justement, c'est-à-dire ce qu'on ressent, le tunnel dans lequel on se retrouve quand on est confronté à la mort ou confronté à un abandon, à une rupture, enfin tous les deuils possibles.
On a une dernière question.
Votre projet paraît généreux au sens fort, au sens ambitieux du terme. Il mobilise plusieurs langages, plusieurs régimes de présence, plusieurs espaces, sans renoncer à l'ampleur, au nombre d'acteurs au plateau par exemple, dans le contexte de production que nous connaissons. Est-ce que vous pensez qu'à terme, on aura encore la possibilité de faire exister de tels projets ?
Désolée.
Ben, je l'espère, évidemment. Je peux que dire ça. J'ai un peu la tentation de répondre que si on s'arrête de le faire, inévitablement, il n'y en aura plus, puisqu'en fait, c'est un peu vers ça qu'on nous pousse, hein, au final. Je crois qu'il y a des œuvres qui doivent se faire avec beaucoup de monde au plateau, parce que ça ne dirait pas la même chose. On a essayé d'imaginer un groupe plus petit, mais ça fait tout à fait autre chose. C'est presque plus familial. Il aurait fallu peut-être raconter des cousins, des cousines, frères et sœurs. Mais là, tout d'un coup, l'idée, c'était pas tellement une bande d'amis au départ. Hein. C'était des gens qui se retrouvaient pour cette pratique-là du saut dans le vide, dans les calanques. Et en fait, c'est pas forcément des gens qui se connaissent si bien. Donc en fait, pour tisser des liens dramaturgiques, ça devenait assez compliqué si on réduisait, parce qu'on pouvait pas du coup donner l'idée que c'est un groupe de gens qui voilà, étaient là au même moment, à cet endroit-là, sur la calanque. Voilà, mais sur les questions de production, c'est sûr que c'est assez affolant, parce que avant, les contraintes de production pouvaient même générer des idées artistiques, et maintenant, ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Et voilà, moi, j'entends le besoin de réduire et d'essayer d'y réfléchir vraiment sincèrement à chaque projet. Mais je crois qu'il faut écouter aussi les besoins de la narration. Et on ne peut pas faire que des seuls en scène, on ne peut pas faire que des binômes. Enfin, au bout d'un moment, on va avoir comme ça j'imagine que dans 200 ans, quand on lira les pièces d'aujourd'hui, les historiens diront, en fait, voilà, vous voyez, il y a beaucoup de monologues parce qu'il n'y avait plus les moyens de raconter des histoires à plusieurs. Mais je pense qu'on se réinventera aussi. C'est-à-dire que si on en arrive là, les récits de monologues, de narrateurs et de narratrices seront diablement remplies d'images et de sens aussi. J'imagine qu'on est assez intelligent pour arriver à faire ça.
Delphine Eke, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.